Oui, bonjour. Si vous vous intéressez à la question autochtone aux Premières Nations et que vous ne connaissez pas notre invité qui est là avec nous, Conrad Sioui, c'est que vous nous écoutez probablement d'un autre continent. Parce qu'en en Amérique du Nord, il y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas d'une façon ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, le travail, les implications de Conrad Sioui. Bonjour, Conrad.
Oui, M. Blondin.
Vous allez bien?
Oui, Robert, ça va bien, oui.
Écoute, vous venez d'être nommé à la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec. Est-ce que c'est un job qui est typiquement autochtone, ça, là?
Non.
Non, je pense pas.
Non, mais c'est un beau mandat, puis je suis justement ici depuis... j'ai passé beaucoup de temps depuis les deux dernières semaines là, à comprendre, puis à étudier, puis en même temps, à connaître les gens aussi, puis... assurer que dans l'avenir, je vais être capable de remplir cette fonction-là avec plaisir. Puis à date, ça va super bien.
Votre permis de conduire est en ordre?
Oui. Ah oui, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a plusieurs situations qui font que, soit dans le Nord ou en milieu isolé aussi, au sein des Premières Nations, des fois, on a des difficultés, puis c'est pas toujours facile d'abord d'exercer nos droits, parce qu'il y a des questions aussi de livraison du véhicule sur réserve, il y a des questions aussi de permis, puis des questions de bureaux qui sont pas toujours accessibles. Alors, on va regarder ça de façon particulière aussi, pour accommoder nos gens.
On peut-tu préciser un peu, Conrad, c'est quoi les problèmes pour les Autochtones sur des réserves d'avoir un permis de conduire, une auto? C'est pas comme chez les Blancs, là.
Non, les assureurs privés ont le choix, parce qu'ils le prennent, d'assurer ou de ne pas assurer des véhicules automobiles, la tôle, autrement dit, des équipements qui sont situés sur réserve. Puis ça, il y a comme on s'aperçoit, je viens de voir ça aussi, donc il y a comme beaucoup d'arbitraire dans ça. Et il va falloir le régler, il va falloir que les gens qui demeurent sur réserve ou pas soient considérés comme des êtres égaux en droit et en responsabilité aussi, puis ça, c'est pas toujours le cas. Après ça, la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, elle assure les personnes. Alors ça, de ce côté-là, ça semble être correct, mais il y a toute une étude, une analyse aussi que je suis en train de faire là, graduellement, là, où je commence à le faire avec la direction ici, pour s'assurer que nos gens partout sont respectés.
Parlons un peu de ce milieu autochtone que vous connaissez mieux que quiconque. Je pense que vous avez, il n'y a pas une fonction que vous n'avez pas occupée chez les Premières Nations. Je ne l'énumérerai pas au complet, là. J'aimerais qu'on parle de politique. Dans le monde des Premières Nations, il existe des assemblées, des chefs, etc. Donc, il existe aussi des élections, n'est-ce pas?
Oui, bon. Ah oui.
Est-ce que le milieu de la politique, ça ressemble, la politique autochtone, ça ressemble à ce qui se passe chez les Blancs, avec les beaux puis les moins bons côtés?
Oui, oui. On a vu la situation avec les Tsuwetin l'année dernière, où on a bloqué les trains pour appuyer les mouvements plus traditionnalistes en Colombie-Britannique qui acceptaient pas les développements comme passer des gazoducs sur le territoire sans autorisation. Et puis là, il s'est créé un schisme à l'intérieur des communautés, même des nations, ceux qui sont élus ou ceux qui viennent de factions plus traditionnelles, aux traditionnalistes. Alors, chez les Hurons-Wendat, depuis 1840, depuis le dernier grand chef élu selon la tradition, c'est-à-dire nommé par les maires de clan, on a graduellement commencé à instaurer un système un peu plus démocratique, je dirais, où les gens sont élus pour un mandat précis, pour un terme précis. Il y a un grand chef et des chefs aussi. Et puis, quand la loi sur les Indiens a été appliquée unilatéralement, la nation Huron-Wendat n'a pas été trop frappée par l'application d'une loi qui est paternaliste, et non seulement paternaliste, mais qui est patricentriste aussi, patrilinéaire. Donc, chez les Iroquois qui appartenons à nos mères, on porte le clan de notre mère, ben c'est bien difficile du jour au lendemain de devenir, si on est castor, ben de devenir des ours, ou de si on est tortue, de devenir des chevreuils. Alors, tout ça fait que dans le monde des Premières Nations, puis souvent, ça a été le début d'une longue désorientation, puis une longue peine aussi à travers nos nations, parce que les femmes n'étaient plus capables de jouer leur rôle premier, et d'être capable aussi d'assurer qu'il y a un leadership fort qui vient vraiment de la base, qui vient de nos mères de clan.
Vous avez mentionné les clans, là. Quand on est ours ou qu'on est loup ou je ne sais trop quoi, est-ce que ça correspond à des partis politiques, ça, aussi?
Non. La loi sur les Indiens a brisé tout ça, a brisé les clans, a brisé tous les systèmes de parenté qu'on connaît sur le plan traditionnel. Alors, on est devenu des adversaires, des familles contre d'autres familles, puis des groupes contre d'autres groupes, des sur-réserves, puis pas sur-réserves, puis des gens qui sont au pouvoir, puis ceux qui ne sont pas. Alors, ça a créé des chicanes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que moi, pour briser ce cycle-là, quand je suis arrivé en 2008, j'ai demandé qu'on aille chercher le consensus le plus large possible et qu'on n'ait pas à voter. Parce que si il y a quatre chefs qui votent contre quatre chefs et le grand chef doit trancher, on crée pas des bonnes relations, ça crée des inimitiés, puis ça crée des divisions internes, et puis alors faut pas les jouer dans ce film-là, parce que c'est un film très, très triste, et il faut revenir à des principes plus conformes à nos traditions.
Est-ce que vous avez été chef de 2008 à 2020 chez les Hurons, oui, et Wendat? Est-ce que vous avez réussi au fait que la nation Hurons Wendat ne soit pas divisée pour ceux qui étaient pour Conrad Siwi, puis d'autres qui étaient pour quelqu'un d'autre?
Je dirais que oui. J'ai remplacé Max Goldwyn.
Il était remplaçable, lui?
Oui. Mais c'était la vieille école, j'ai rien contre ça. C'était son moment, son époque. Et moi, je pense que la meilleure preuve, c'est que j'ai jamais eu à voter. J'ai jamais voté au conseil ou exercer un droit de vote. Si j'avais pas le consensus assez large possible, j'envoyais les résolutions ou les décisions au niveau des fonctionnaires de l'administration publique de la nation pour refaire les devoirs, pour s'assurer que quand il y a quelque chose qui passe au conseil, qu'on est capable de tous s'entendre. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore d'accord avec une décision, il va dire, comme dans l'ancien temps, il va dire, puisqu'il y a sept chefs qui sont d'accord et je suis le seul qui suis pas d'accord, je m'arrange. Alors, de même, on est capable d'aller chercher plus d'amitié, puis en même temps de fraternité, puis en même temps, ça s'inflète aussi dans la communauté, plutôt que de trancher des fois sur des décisions qui peuvent toucher plus une famille que d'autres. Alors, on a mis toutes sortes de processus comme ça, des principes aussi en place pour justement s'assurer qu'il y a une justice sociale aussi. Par exemple, j'ai jamais voulu savoir le nom de famille de personne. S'il y a des concours, je dis donner les prénoms tout simplement, et que ce soit juste pour tout le monde, que tout le monde soit capable de croire qu'on a un système en place, une gouvernance qui est respectueuse de tout le monde. Alors, ça, c'est le grand enjeu présentement à travers les Premières Nations au Canada, puis même ailleurs, de protéger les droits collectifs par opposition aux droits individuels. On s'aperçoit que de plus en plus, les droits individuels prennent de la place, et de plus en plus, on va dire, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? Qu'est-ce qu'il y a pour moi, ma famille? Et on va oublier qu'on est, dans le fond, des nations. Alors, de ce côté-là, faut être très vigilant.
Est-ce que vous avez eu des difficultés chez les Premières Nations pour faire accepter ce dont vous venez de décrire,
Non, je n'ai pas eu de difficultés parce que, d'abord, le leadership exige qu'on soit convaincu soi-même pour être capable de convaincre les autres. Et de ce côté-là, je pense que ça faisait trop longtemps aussi que les divisions internes avaient à faire leur ravage. Et j'ai pas eu de difficulté du tout, mais toujours à condition qu'on soit franc, qu'on soit honnête, puis qu'on soit capable de démontrer que ça a une valeur, cette prise de décision collective-là.
Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Vous avez été 12 ans là, à la chefferie oui. Huron-Wendat. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre séjour comme chef?
Ben, d'abord le développement. C'est sûr que j'ai mis beaucoup d'accent sur le développement économique. On a investi au-dessus de 50 millions quand on est allé chercher pour des programmes, des services, des infrastructures modernes. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut avoir les outils, il faut avoir les capacités matérielles pour donner des services puis rendre des services de qualité à notre monde. Qu'ils soient sûrs ou en réserve, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est des membres de la nation. Mais c'est certain que la défense des droits et la protection du territoire, c'est fondamentalement important parce qu'on a beau commencer à instituer des cours de langue, des cours de culture, des rapatrier certaines traditions, etc. Mais si on n'a plus de territoire, si le territoire est parti, le territoire ne nous appartient plus ou il a été réquisitionné par d'autres, si on n'a plus accès à nos ressources, à ce moment-là, c'est une grande perte parce que tout doit se jouer sur le territoire. Puis le territoire, c'est certainement pas un mille par un mille comme une réserve indienne. C'est le territoire, c'est le territoire ancestral, le territoire traditionnel de la nation ou des différentes nations. Puis de ce côté-là, je suis allé jusqu'en Cour suprême avec ma famille, avec la nation. On a passé 10 ans à travers toutes ces étapes-là pour gagner, en fin de compte, qu'on a des traités qui sont intacts, des traités reconnus. Donc, on est capable, à ce moment-là, de démontrer qu'il y a une coexistence qui peut être pacifique et que la relation, dorénavant, ne sera plus une relation colonialiste de père à fils ou de mère à fille, mais une relation d'égal à égal.
Tout en modernisant les outils, là.
Toujours... En modernisant les outils, on peut pas vivre rien que dans le passé. On vit dans un monde pluraliste, un monde où tout le monde doit avoir sa place. Et dans le fond, dans l'arrêt si oui à la Cour suprême, c'est un peu ce que les 9 juges sur 9, de façon unanime, disent. On vit dans un monde moderne, mais il y a toujours la place. Il doit toujours avoir une place pour les Premières Nations pour exercer leurs droits, exercer leurs traditions, leurs coutumes. Dans le respect de leur tradition, mais aussi dans le respect des autres aujourd'hui qui ont aussi droit à avoir une place. Alors, c'est de s'accommoder un et l'autre, et dans le fond, c'est ça la pensée du cercle aussi. On est tous égaux autour du cercle, puis on a un devoir de nourrir le feu au centre, et puis si on le fait comme il faut, ben tout le monde va avoir chaud. Sinon, ben.
On revient avec Coral Sioui après avoir entendu une chanson, Canen, qui est de Maniutenab.
D'accord. Que je vais bien si je sors à chaque jour, malgré que c'est juste pour aller fumer. Ma job dit de tourner la page, mais à chaque essai j'ai rien, et plus ça va, plus c'est lourd. Je ne pense pas y arriver. Allez de moi à toi à la nage. Je veux juste qu'on arrête de jouer et qu'à mes doigts de chez. Je crois que je vais partir. Je crois que je vais partir. je pense à t'embrasser. T'en as reçu assez. Hush, not send it. Je m'en vais. Je crois que je vais partir. Comme tu dis, je m'enfuis. Ailleurs, je vais mourir. T'attends.
Karen, autrice, compositrice, interprète originaire de la communauté Innu de Ouachatmak, Mani-Outenam. Conrad Sioui avec nous, qui vient d'être nommé à la tête de la Société de l'assurance automobile du Québec. Conrad, est-ce que vous êtes le premier membre des Premières Nations à atteindre la haute fonction publique?
Peut-être pas la haute fonction. D'abord, je voudrais féliciter Karen. C'est une très, très belle chanson. Une chanson qui parle et qui exprime qu'est-ce qu'elle vit. Qu'est-ce qu'elle vit comme personne, comme jeune personne. Et puis, merci de m'avoir partagé ce moment-là. Et non, pas de la fonction publique, parce que je ne suis pas de la fonction publique. C'est un poste. Je préside un conseil d'administration d'une société d'État. Puis, semble-t-il, j'ai su ça moi-même après, là, dans le communiqué de presse qui est sorti, que j'étais le premier membre des Premières Nations à occuper une fonction comme président d'une société d'État du Québec.
Pourquoi il n'y en a pas eu avant? On s'en doute un peu, là, mais essayons de mettre le doigt dessus.
Tout reste à faire. Il y a tellement de travail à réaliser. Puis je pense que c'est surtout, vous serez posé la question, pourquoi aujourd'hui on est rendu là. On est rendu qu'on a pris conscience que il y a des gens, des minorités visibles, des gens qui sont pas toujours considérés comme des pure laine ou des gens des Premières Nations, qui ont besoin de faire partie de la mosaïque québécoise, parce qu'elle ne peut pas tout être fabriquée, cette mosaïque-là, par des Tremblay et des Bouchard.
Est-ce qu'il y a eu des réticences à votre nomination à la tête de la Société d'assurance automobile du Québec?
Je ne pense pas. Je
ils ne l'ont pas dit.
Ils ne l'ont pas dit. Non, je pense pas. Puis... d'abord parce que on présente notre curriculum, mais on va gagner ça parce qu'on a les compétences, les capacités, les qualités personnelles. Et tant mieux s'ils rajoutent le fait qu'on peut être citoyen d'une Première Nation, mais non, je pense que ça vient juste enrichir le conseil d'administration, amener une caractéristique qu'il n'avait pas auparavant, puis peut-être aussi répondre aussi à des questions qui, sans ça, ne trouveraient pas de solution.
Les valeurs que vous représentez, Conrad Sioui, dans le monde des Premières Nations, est-ce que ces valeurs-là pourraient apporter quelque chose d'intéressant à la SAC?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, quand on arrive en quelque part, on respecte ce qui a été fait. On respecte le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé fort pour atteindre un objectif. La SAC, d'après ce que je suis en train de voir, c'est un joyau de la société québécoise. C'est une société d'État qui rapporte beaucoup, qui donne un service important, qui considère tout le monde comme un bénéficiaire d'une structure gouvernementale qui est nécessaire aussi. Et c'est, comme on dit en anglais, c'est « made in Québec ». C'est vraiment quelque chose qui a été construit par les Québécois, et tout le monde devrait être fier de ça, qu'on soit autochtone, Première Nation ou qui que ce soit.
Vous voulez dire qu'ailleurs au Canada, on n'a pas ce type d'assurance automobile?
Ben, c'est un autre modèle, c'est des modèles différents, mais ce que j'ai compris, c'est que la paternité ou la maternité de cette
Oui, c'est plutôt la maternité, hein?
La maternité, oui.
C'était Lise Payette à l'époque.
Pardon?
C'est à l'époque de Lise Payette, non?
Lise Payette, et puis... Puis ce que je regarde, c'est que aussi, on s'aperçoit que je viens de passer plusieurs sessions avec la vice-présidence, la direction générale, les membres du conseil d'administration. Et il y a des compétences qui aujourd'hui dépassent celles de la géographie du Québec là, et un peu partout, les gens prennent exemple sur ce que le Québec a mis en place.
Pour vous penser vous plaire dans ce poste-là, vous avez des défis intéressants à relever pour vous?
Oui, ah oui, c'est un défi qui j'ai toujours aimé relever des défis, puis celui-là, je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup en tout cas, à date. Ce matin encore, je viens de sortir d'une réunion qui était vraiment palpitante. Il y a des défis. D'abord, au niveau de la gestion, du management, de la vision ou la capacité d'aller plus loin. Il y a des défis aussi de rendre des services, puis rendre aussi aux utilisateurs un service de qualité. Ça me sort aussi de la gestion de dossiers strictement Première Nation ou autochtones. Et ça me permet aussi de gérer ou de présider les conseils de façon à ce que la couleur de ce qu'on peut représenter comme Première Nation puisse ressortir. Puis ça, c'est important parce que je m'aperçois, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a des personnes ici, au Québec, puis peut-être même pas trop loin, qui n'ont pas été vraiment considérées comme elles l'auraient dû.
À cause de leur origine de Première Nation?
Oui, ben oui. Des fois, tu sais, on oublie. Ça passe à travers les... C'est pas à cause que les gens sont puissent être racistes ou puissent être discriminatoires, mais c'est que souvent, on oublie. On pense que tout le monde vit dans le même principe, vit sur les mêmes bases, puis dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas nous autres qui avons inventé les réserves indiennes. C'est pas nous autres qui avons créé la loi sur les Indiens. C'est pas nous autres qui avons...
Vous les avez subis plus qu'autre chose. Hein?
Subis beaucoup plus, mais en même temps, on s'est fait une vie à travers ça. On s'est refait une identité à travers ces outils colonialistes-là. Mais on peut pas nous oublier. Puis aujourd'hui, il faut qu'on soit tenu pour compte. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'ouvrages à faire.
Parce qu'il y a encore un peu de racisme qui est là. Sinon du racisme, au moins des préjugés, ça existe encore.
Ah oui. Il y en a partout, là, ça. Puis le racisme, c'est la racine du racisme, c'est le fait qu'on ne connaît pas l'autre et qu'on développe des pensées négatives à l'endroit des autres parce qu'on n'a pas connu leurs origines ou on ne connaît pas leur valeur précisément parce qu'on est dans une société majoritaire et on s'occupe pas trop de ceux qui peuvent être représentés dans un monde minoritaire. Et de là, soit l'indifférence ou le racisme ou le mépris, c'est toutes des facettes d'une société qui existe un peu partout. Mais ça se corrige, puis ça s'améliore, puis il faut le faire. Puis pour ça, il faut d'abord et avant tout se considérer comme égaux. Puis accepter qu'on peut avoir des droits et aussi des responsabilités comme civilisation, comme société.
On a beaucoup à parler dans différents documentaires, des articles, des études aussi parfois, des dangers dans les réserves, de l'alcool, de la drogue, etc. Il y a un autre danger dont on ne parle jamais, puis j'ai fréquenté un peu ce milieu-là, c'est le danger de la surconsommation, la consommation à tout prix. Ça existe aussi dans le monde des Premières Nations, autant que chez les Blancs, hein?
Bon, oui, M. Blondin, vous savez que quand on est dans une communauté des permis d'action, une réserve, et que les seuls revenus qu'on a, c'est les permis de transfert du fédéral, on est pauvre. Puis la pauvreté, ça amène son lot de difficultés, puis de misère humaine, et puis tout le restant. Alors, la surconsommation y inclut. On mange moins bien parce qu'on a moins de possibilités de s'acheter quelque chose de bon ou de qualité. Et puis ça, ça a un effet sur sur la pensée, puis sur la société, puis sur les notes à l'école, puis sur le restant.
Un cercle vicieux, que... c'est vraiment un cercle vicieux, c'est sûr.
Un cercle vicieux, puis en même temps, il faut faire bien attention, puis ça c'est important, de ne pas se déclarer puis se considérer victime de la société, puis parce que une fois qu'on s'est déclaré victime, qu'on a considéré que tout le monde était contre nous, puis qu'on n'avait pas notre place, ben là, on devient handicapé dans une société où on ne devrait pas l'être. Parce qu'on devrait, à travers tout ça, continuer de vouloir faire grandir nos nations dans un concept d'autodétermination, puis de force, puis de solidité. Puis ça, c'est l'enjeu qui aujourd'hui nous regarde et nous fait, auquel on a à faire face. Alors, on a des droits, on a des territoires, on a une façon de se gouverner. On peut pas le faire en isolation de personne. Il faut se construire des alliances. Et ces alliances-là, ben, faut les entretenir, nos alliances. Puis dans ce sens-là, on a peut-être de très belles chances de voir l'avenir avec beaucoup de couleurs puis beaucoup de lumière.
Coral Sioui, vous êtes à la tête de la SAC. Rapidement, en terminant, quand vous regardez ce que vous avez vécu dans les Premières Nations, dans votre enfance, et ce que c'est maintenant, toute une différence quand même.
On a fait des pas de géant, on a réalisé beaucoup, beaucoup, puis c'est ce côté-là qu'il faut regarder. Le côté de la lumière, le côté de la force, le côté de la dignité humaine. Et puis de ce côté-là, je vous dis merci. Vous êtes un allié, vous m'appelez, puis on se parle de façon respectueuse, puis on échange. C'est comme ça qu'il faut qu'on continue. Et dans ce sens-là, ben, je pense que les jeunes qui s'en viennent, qui vont prendre la place, ben, ils ont des possibilités... sans limite.
Coral Sioui, merci et bon séjour à la SAC.
Voilà. Merci.
Au revoir.
Vous écoutez Koué, bonjour.
Et on est tous là, toute l'équipe est là, et notre chroniqueur est là aussi, Éric Pouliot-Tisdale. Bonjour, et vous allez nous parler de quoi, Éric, aujourd'hui?
Bonjour tout le monde. Oui. Cette semaine, on va observer des modifications dans les noms de famille des gens dans les communautés autochtones. C'est-à-dire qu'autrefois, étant donné que les noms, il n'y avait pas vraiment de nom de famille, quand les gens naissaient, il se faisait donner un nom, par exemple, celui qui est né près de la rivière, ainsi de suite, avec des qualificatifs spéciaux qui étaient donnés soit par les mères ou par les pères selon les systèmes de clans de chaque nation. Quand les chrétiens sont arrivés ici, les missionnaires, c'est eux qui ont décidé finalement d'imposer un nom de famille aux gens pour pouvoir les identifier. Éventuellement, étant donné que les noms de famille, il y en avait quelques-uns qui portaient des noms de famille, mais c'était extrêmement rare. Souvent, c'était des chefs de père en fils. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Souvent, les gens se demandent comment ça se fait que cette personne-là a un nom anglais ou un nom français, puis elle est autochtone, comme par exemple le chef Simon, ou la famille Gabriel, ainsi de suite. Tout ça a commencé entre 1891 et 1901, approximativement. C'est dans l'époque où les écoles résidentielles ont débuté pas mal. Ça a débuté vers 1891, surtout les gens comme les Borak puis les Abenaki, qui étaient des missions, disons, anglophones. Les premières écoles résidentielles étaient en Ontario. Ils ont été envoyés à l'école résidentielle en Ontario. C'est à peu près dans cette même période-là que les noms ont commencé à être modifiés. Donc, si on suit les familles d'un recensement à l'autre, on peut remarquer, par exemple, que la famille Simon, comme le grand chef Simon le connaissait à Paquet, autrefois, son ancêtre, en 1881, s'appelait Simon Anayeta. Finalement, en 1881, il y avait Simon Anayeta, Michel Anayeta. Lorsque Simon Anayeta est décédé, Simon qui était le prénom qui avait été donné par les missionnaires, les enfants ont pris le prénom du père Simon comme une, comme nom de famille, tout comme la famille Gabriel, Gabriel, les Martin, ainsi de suite. Par exemple, nous, dans notre famille, c'était une, la mère de mon arrière-grand-père s'appelait Catherine Conwaxi-Lohan. Et puis, lorsqu'elle est décédée, les enfants ont pris son prénom comme nom de famille. Alors donc, mon grand-père, c'était Vital Catherine, dû à ça. Il y a aussi, bon, la famille Nicolas, évidemment, c'est un prénom. Il y en a d'autres un peu plus inusités. Certaines familles qui s'appelaient Murray, à Kanasetake, qui éventuellement est devenue Gaspé. C'était un peu des fantaisies des missionnaires de modifier des noms comme ça avec des croyances religieuses parce qu'il y a eu des mouvements religieux dans certaines missions entre catholiques et protestants, ainsi de suite. Parfois, il y a eu des petites rébellions comme si on remarque à Deux-Montagnes, à Oka, les gens ont fait un boycott des catholiques, étant donné que les catholiques commençaient à vendre, les missionnaires commençaient à vendre des terrains que les Mohawks n'utilisaient pas à des Blancs. Donc, ça a été la fin un peu du principe des terres de la couronne qui appartenait à l'État, mais là, qui était finalement géré par des missionnaires. Donc, les gens se sont rebellés, ils ont tourné contre les soutiens catholiques vers des méthodistes. Certains noms ont été modifiés, comme les Murray du Gaspé, Gaspé du Murray. Et puis, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que aussi on voit la même chose, non seulement près des missions près de Montréal, mais aussi il y en avait certains près de Mastoyage, par exemple, une certaine famille Basilis, parfois dit Basile, parfois dit Basilis. Donc, c'était vraiment des modifications assez importantes. À Kanawaki, il y en a eu d'autres aussi. La famille Daibou, D'AILLEBOUST, c'est un ancêtre francophone qui avait marié une Mohawk. Éventuellement, ils ont changé le nom pour Diabo, D-I-A-B-O, phonétiquement. C'était pour se démarquer vraiment, faire une variante là, de ce côté-là. Et puis, on en a quelques autres comme ça, comme la famille Deer. La famille Deer de Kanawake, qui signifie chevreuil, ben, autrefois, c'était littéralement le beau Deer en Mohawk. Donc, il y a certains des noms traditionnels qui ont simplement été traduits. Mais c'était vraiment une tentative d'assimilation au début des écoles résidentielles. Donc, vraiment, des connotations anglophones et francophones, souvent les gens vont se dire ben c'est, ça doit être extrêmement métissé, mais non, ce n'était pas le cas. C'était finalement l'ajout d'un prénom pour le transformer en nom de famille, le prénom d'un père de famille qui est devenu le nom de famille, finalement. Donc, c'est pas mal ça qui s'est produit. Il y a certaines familles qui ont conservé des noms traditionnels puis ça n'a jamais été modifié, comme une famille qu'on voit beaucoup à Pointe-Bleue, au lac Saint-Jean, qui est Mastoyache, autrefois nommée Pointe-Bleue. Tout aux alentours de Jonquière, Roberval, la famille Neptune. C'est un nom de famille Abenaki qui n'a jamais été modifié, qui est toujours resté intégral. C'était vraiment un chef Neptune depuis les années 1700. Aux États-Unis. Et puis, c'est ses ancêtres, finalement, qui ont marié une Huronne au Québec, puis qui sont montés à la Pointe-Bleue. Et puis, le nom de famille s'est vraiment répandu, tant chez les Québécois que chez les Montagnais, que chez des Abénakis. Donc, la famille Neptune s'est restée intégrale. Quand je vous parlais de la famille Simon, son ancêtre, en 1825, il était qualifié dans le recensement de Simon Oninieta, selon la prononciation de celui qui faisait le recensement. En 1831, il est devenu Nayeta. En 1841, Anayeta. 1851, Anayeta. En 1871, Anageta. Et finalement, à partir de 1901, c'est Simon qui est devenu le nom de famille. Donc, c'est pas mal ça qui s'est produit dans la majorité des missions et des communautés au Québec, puis en Ontario aussi. Puis il y a généralement beaucoup dans le Canada, c'est ce qui s'est produit. Il y a beaucoup de gens qui ont recouru à revenir avec des noms traditionnels, puis de plus en plus, c'est ce qui se produit. Et puis, il commence à y avoir des ententes. D'ailleurs, avec le Code civil de Québec, il y a un article à cet effet qui offre la clémence aux gens de revenir avec un nom traditionnel. Alors, donc, c'est ce qui explique les noms au caractère francophone ou anglophone chez les Autochtones. J'espère que ça l'a aidé à clarifier la situation. Donc, bonne semaine tout le monde.
Merci d'être avec nous.
On se retrouve aujourd'hui pour conclure, malheureusement, mais non sans fierté, le dernier épisode de cette série de 5 qui a pour but de vous ouvrir la porte de chez nous et vous faire connaître plus qui on est, les Innus.
Dans ce dernier épisode, on vous présente à quoi vous attendre quand vous venez dans une communauté. Même si on n'a pas d'image, on va essayer de vous faire voir un peu ce que c'est que de vivre chez nous. Tout d'abord, une communauté, c'est quoi? Bien, en vertu de la loi sur les Indiens, une réserve indienne est une terre détenue par la couronne pour l'usage et le bénéfice des bandes respectives selon les traités ou autres accords. Seuls les Indiens inscrits, c'est-à-dire ceux qui ont le statut juridique, peuvent être propriétaires de leurs propres terres sur une réserve. Mais cette propriété demeure à la discrétion du gouvernement fédéral et n'implique pas la possession légale complète. Fin de la citation de la loi sur les Indiens.
Tu veux-tu me dire, toi, chose, que j'aurais beau me faire bâtir un château, là, la reine pourrait demain débarquer ici puis venir me le prendre puis en faire son chalet, c'est ça?
Ah oui, et c'est un balado, il y en a cinq comme ça, on parle des racines, des différences entre les communautés, des mythes, des réalités, les valeurs, l'humour même de nos gens des Premières Nations, et celui-là, qui est on n'est pas des sauvages, une série qui s'appelle Tipatchimoun, si je le présente bien, mais c'est surtout que je vais vous présenter l'auteur, la créatrice de tout ça, qui est Ève Ringuette. Bonjour.
Oui.
J'ai tout entendu, tout écouté, j'ai adoré ça. C'est drôlement bien fait et ça en dit très long. On perd pas de temps autour, mais c'est présenté de façon humoristique, légère, et ce qu'on apprend est très important sur le monde des Premières Nations. Bravo!
Ben merci beaucoup. C'était le but, justement, que ce soit léger et facile à écouter, un petit peu comme une conversation qu'on aurait chez nous dans notre salon avec quelqu'un qui viendrait nous à notre rencontre.
Vous avez fait d'autres choses dans la vie, on va revenir à ça, mais des films, bon, les mots de Joséphine, on sait de qui il s'agit, la grande poétesse, la légende, plein de choses. Vous faites uniquement des sujets qui concernent le monde des Premières Nations parce que vous en êtes. Vous êtes d'origine d'où?
Moi, je suis de Ouachat-Mankmanoutenam. En fait, les créateurs, parce qu'on a plusieurs balados sur des sujets différents, chaque balado a ses créateurs. Moi, j'ai fait celui de « On n'est pas des sauvages » avec Mathieu. Et par exemple, les mots de Joséphine ont été faits par Marie-André Gill, qui est une Innu de Mashuyash.
Vous aimez ça, faire ça visiblement?
Oui, ben moi, si je peux travailler dans le domaine de la création, je le fais le plus possible parce que je suis une artiste dans plusieurs domaines. Je dessine, je peins, j'écris, j'ai participé comme actrice dans des films. J'ai déjà écrit quelques scénarios pour une série web. Si je peux toucher à quelque chose qui est artistique, c'est sûr que je tente ma chance. Puis, avec la formation des balados pour Tipatchimoun, j'ai sauté sur l'occasion parce que, dans le fond, Tarinou et CKAU recherchaient des gens pour pouvoir bénéficier de la formation pour faire des balados.
Est-ce que vous feriez autre chose si c'était pas possible d'en faire?
Des balados, je veux en faire... plus.
Je vous interromps, parce que j'étais certain de votre réponse. Que c'est ça que vous voulez faire, point.
Ah, oh, les balados, ben.
Les balados,
non, en fait,
les films, etc. Vous l'avez dans le sang, vraiment. Ça se voit dans votre façon de faire les choses.
Oui, c'est ça que travailler dans le domaine des arts, c'est quelque chose que je veux faire de ma vie. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaie d'aller le plus souvent. Puis dans le futur, c'est mon objectif, ça, c'est sûr et certain.
Faire partie des Premières Nations, pour vous, c'est un avantage dans le métier que vous voulez exercer ou un obstacle parfois?
Je pense que ça dépend de la situation et c'est pas d'être membre de la Première Nation qui fait en sorte que c'est un désavantage. C'est ce qui se passe en ce moment au niveau des arts. T'sais, si je voulais faire plus de films ou de séries, ce qui est difficile en ce moment, c'est que au niveau du cinéma et de la télé, on prend toujours les mêmes personnes pour jouer les mêmes rôles. Et là, la diversité est plus difficile à compléter, si on veut, dans les émissions. Donc là, on dirait qu'il y a une ouverture qui se fait très tranquillement. C'est pas d'être des Premières Nations qui est difficile, c'est le domaine qui a pas encore l'ouverture pour permettre aux gens de s'installer puis de faire sa place.
Moi, j'ai vu quelques ouvertures du monde des comédiens ou des comédiennes. Par exemple, on commence à les voir, à les inscrire comme tels dans des séries. Mais au niveau de l'écriture, des scénarios, de la réalisation, il n'y en a pas une tonne. Hein?
Oui, il y en a, c'est ça. Il n'y en a pas une tonne encore où on n'en parle pas assez.
Ah bon?
C'est ça, oui, parce qu'il y a beaucoup de maisons de production qui sont autochtones au Québec, au Canada aussi. Puis, par exemple, Niche Media est basée à Gatineau, ont déjà plusieurs séries et films à leur actif. Tarinou aussi ont des documentaires. À Montréal, il y en a quelques-unes aussi des boîtes de production qui ont créé, c'est Mohawk Girls qui est sur la PPN, qui a été très populaire. Il y en a, mais on dirait que dans le jet set du Québec, on n'en parle pas assez.
Mais ils
sont là. Les comédiens aussi sont là.
Est-ce qu'on les voit assez? C'est Sérida?
On les voit sur APTN. Là, tranquillement, il y a de plus en plus de diffuseurs comme Radio-Canada qui va aller chercher du contenu autochtone pour le présenter sur sa plage horaire qui
généraliste, oui.
C'est ça. Mais dans le passé, je pense qu'on voyait plus souvent le contenu autochtone sur APTN. Mais tranquillement, pas vite, je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent.
Je me permets de me désoler un peu de ça, qu'on les retrouve tous, tant mieux pour APTN. Là. Mais ça fait comme en onde au niveau des médias, une autre réserve indienne, c'est-à-dire qu'il y a un canal dans lequel on met tout, puis on les voit très peu ailleurs. C'est dommage.
Oui, effectivement, parce que les gens, en fait, ne connaissent pas tous APTN. Souvent, les gens se demandent, OK, c'est quoi ce poste-là quand que je parle des émissions auxquelles j'ai participé? Puis je leur dis, ben c'est un canal qui est ouvert à tous. Si tu l'as dans ton programme, tu n'as pas besoin de t'abonner. Puis là, les gens, ils savent pas c'est quoi parce qu'on leur en parle pas. Puis on dirait qu'ils se disent, ben ça doit être pour les Autochtones, cette chaîne-là. Ça veut pas dire que c'est pour moi, mais en fait, il y a du contenu pour tout le monde. Puis c'est une belle façon de découvrir des Premières Nations à travers tout le Canada, vu que c'est des émissions qui viennent de partout.
Est-ce que les grandes chaînes généralistes, y compris Radio-Canada, ont tendance à aller chercher vos séries s'ils ont eu du succès à APTN d'abord?
Je ne sais pas pour ça. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que là, les diffuseurs ont tendance à... Tu sais, ils voient qu'est-ce qui se passe. Là, on se lève, là, on se dit, écoutez-nous, on a du talent. Puis avec la série Trickster, dernièrement, on s'entend que ça l'a fait un petit du remous. Donc là, ils vont chercher des créateurs autochtones, ils veulent raconter des histoires des Premières Nations, mais par les Premières Nations. Là, c'est là qu'on est rendu, puis c'est cette petite porte-là qui s'ouvre. Puis j'espère qu'elle va s'ouvrir beaucoup plus grand, parce qu'on a beaucoup à raconter. Puis je pense qu'ils vont aller chercher des gens qui ont de l'expérience.
Est-ce qu'ils font ça, cette ouverture de porte, pour se déculpabiliser ou parce qu'ils ont vraiment un intérêt et qu'ils aiment vraiment ces productions-là avec l'approche autochtone?
Je peux pas parler pour eux. Tu sais, mon opinion personnelle, on dirait que j'ai une petite impression que c'est pour se déculpabiliser, bien sûr, à cause de tout ce qui se passe dernièrement. Et c'est une bonne chose. Mais j'espère aussi qu'une grande partie de leur désir d'avoir du contenu autochtone, c'est parce que c'est le temps d'en parler et qu'ils sont très intéressés. J'espère que les événements qui se sont passés dans les dernières années font en sorte que là, ils se disent ben ce serait le temps de s'intéresser aux Autochtones au lieu de les mettre de côté. Puis c'est mon plus grand souhait, là, que ce soit comme ça que les diffuseurs pensent aujourd'hui.
Quand vous vous installez pour écrire un scénario, est-ce que vous prenez un sujet qui soit comme nécessairement autochtone comme sujet, ou si vous prenez n'importe quel sujet et vous le traitez de façon autochtone?
Moi, dans ce que j'écris présentement, souvent, c'est inspiré tout de suite de sujets autochtones parce que c'est ce que je veux partager. Mais j'ai plusieurs amis scénaristes qui ont un sujet général, puis quand on nous dit d'écrire, on nous dit d'écrire sur quelque chose qu'on connaît. Donc, de le faire sous la vision autochtone, c'est la meilleure parce que c'est celle-là qu'on a.
Comment on écrit, comment on réalise un film? On arrive sur un plateau, on est autochtone. Qu'est-ce que vous allez faire de différent d'une jeune femme blanche qui a étudié, à Los Angeles, là?
Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a vraiment de différent. Moi, j'ai appris sur le tas avec Sonia Boileau, une réalisatrice Mohawk. Puis l'approche est très amicale. Tout de suite, on est devenu très proche. Puis le plateau est amical. Il n'y a pas de stress. Puis si je compare ça au plateau de tournage où est-ce que je suis allée, sur lesquels c'était des équipes non autochtones, j'ai vu que la différence, c'est que c'était très très en lignée. C'est très pas strict, mais plus strict, moins. Il y avait quelque chose qui manquait de ce que j'avais vécu avec Sonia, par exemple. C'est de la façon que moi je travaille parce que c'est comme ça que j'ai aimé être entourée avec la réalisatrice Sonia. Donc, de formation, si on veut, sur le tas, c'est comme ça que moi, je travaille.
Peut-être que les plateaux qui sont pas autochtones sont davantage axés vers un succès quantitatif. Et vous, vous êtes encore imbu du feu de dire quelque chose qui est important à révéler, finalement. Votre message, oui. Vous le sentez profondément. Hein? Souvent, sur les Blancs, on veut simplement raconter une histoire pour avoir du succès. Ça arrive aussi. Hein?
Oui, des fois, quand ça fait plusieurs années qu'on est dans le métier, le message n'est plus le même. Nous, on est passionnés encore parce qu'on dit qu'on a un message à passer. Il faut le passer, il faut bien le passer. Mais on veut que ce soit passé avec des moments heureux sur le tournage. Donc, souvent, l'ambiance, c'est important pour que ce soit le plus vrai à l'écran. Et
comment,
je pense que c'est ça qu'on fait quand on... Eve, quand on commence à réaliser.
Eve Ringuette, à quel moment le microbe de ces productions-là vous a frappé dans votre vie et pourquoi?
Des productions qui sont plus axées sur la quantité.
De faire simplement, de jouer avec une caméra, avec des mots, avec des sons.
Bien, en fait, j'ai commencé à être passionnée par le jeu en théâtre en secondaire 4 avec Marie-Josée Lévesque à cette île. Au début, j'étais là seulement parce que je voulais faire des décors. Puis je voulais être derrière la scène. Et finalement, elle m'a dit, je suis sûre que tu as quelque chose pour ça. Je le vois dans ta personnalité. Puis elle m'avait donné un rôle dans une pièce de théâtre qu'on avait montée. Puis à ce moment-là, j'ai fait, oh, j'aime vraiment ça.
Elle avait raison. Ce que j'ai écouté de vous, c'est formidablement intéressant. Il faut le diffuser. Merci.
Bien, merci à vous.
Eve Ringuette. Formation Atikamekw, dont les membres sont originaires de Manawan. L'équipe de cette émission, Louis Garon, Claire Guérin, Maurice Bolduc, Robert Blondin ici. On vous dit Koué, bonjour. On en fait presque plus de différence entre tous ces bonjours. La semaine prochaine.